Donc, comme je l'ai promis tout à l'heure, je prie Madame Bourgeois et le docteur Marsili de nous rejoindre. Ils sont plus là, du coup. Vous voulez bien nous rejoindre, s'il vous plaît ? Bien, et donc on engage la discussion questions-réponses. Qui veut bien se lancer ? Oui ? Donc n'oubliez pas, je le disais tout à l'heure, systématiquement de causer dans le micro et peut-être de vous présenter au moment d'intervention, s'il vous plaît.
Michel Thirier, directeur du centre hospitalier Gérard Marchand à Toulouse. Et je salue au passage M. Loda. En fait, on construit, depuis des lustres, des établissements de santé pour souvent des dizaines d'années, voire dans le cas de mon établissement, centaines d'années, puisque donc on a un établissement classé. Mais en fait, la construction, me semble-t-il, ne résiste pas au fond à l'appropriation des espaces par les personnels eux-mêmes, et qui eux-mêmes donc découlent souvent donc des visions de la prise en charge que définissent les médecins. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que il y a une difficulté entre le temps d'immobilisation et le temps d'utilisation des espaces. Et au regard aujourd'hui de la situation dans laquelle se trouvent nos plans globaux de financement pluriannuels, on se retrouve dans des difficultés fortes de réadaptation des locaux par le fait qu'on a des tendances lourdes qui s'exercent sur la prise en charge des malades. Vous en avez parlé au cours de l'échange, la sécurisation des prises en charge, la spécialisation aussi des prises en charge, et qui font que on n'est jamais vraiment dans le bon tempo. Et donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que les maîtres d'œuvre prennent en compte suffisamment ces nécessaires adaptations. Moi, j'ai toujours un peu l'espoir que les ouvrages qui sont livrés puissent être adaptable sur les années qui viennent, et c'est rarement le cas. Donc ça génère à la fois, je dirais, la créativité interne, puisque les équipes cherchent des solutions. Donc il y a quand même une certaine difficulté, en fait, au vécu de ces équipements. Et puis ça génère souvent des surcoûts importants pour les établissements de santé. Donc c'est une vraie difficulté. Alors on a vu des choses assez remarquables à la fois dans les images, mais je me dis aussi que on pense pas assez l'adaptabilité des contenus aujourd'hui en termes de construction, et donc j'aurais des réponses si votre métier réfléchit un peu plus aujourd'hui.
Vous avez bien compris que la question s'adresse tout particulièrement à M. Loda.
Alors, l'architecture manipule des outils qui s'adaptent effectivement assez peu du changement rapide des fonctionnalités. On construit, l'architecture grave dans le marbre, et l'expression veut bien dire ce qu'elle veut dire, des fonctionnements à intenter. On comprend évidemment que ces fonctionnements sont amenés à changer. Morphologiquement, il y a des espaces qui ne peuvent pas évoluer, notamment celui des chambres. Donc, si changement de destination du bâtiment il y a, il devra s'adapter à la capacité du bâtiment. Après, pour tout ce qui est des autres espaces, on a vu à Trieste que c'était parfaitement bien décrit, qu'on pouvait faire, si je vais caricaturer à dessin, à peu près tout, n'importe où. Ou n'importe quoi, n'importe où, ce qui n'est pas péjoratif. Donc il ne faut pas forcément croire, et le docteur Thévenon l'a dit, qu'une consultation, par exemple, doit obligatoirement se faire dans un bureau. On peut évoluer un petit peu là-dessus. Après, sur les tailles d'espace, c'est extrêmement compliqué. Vous parlez de budget resserré. Plus on va aller loin dans les possibilités d'évolutivité des lieux, plus ça va coûter cher. Tout ce qui est mobile en architecture coûte plus cher que ce qui est fixe. Donc c'est un équilibre à trouver. Éviter de changer d'avis pour de bonnes raisons, en général trop tôt, trop vite, trop souvent, et essayer surtout d'anticiper au maximum. Bon, cela dit, 20 ans après qu'on ait construit un bâtiment, on imagine assez bien que les contextes aient pu changer, les besoins aussi, etc. Mais l'idée qu'on se fait, nous, de la non-nécessité de créer une architecture psychiatrique rend la possibilité d'utiliser les espaces à des fins différentes de ce qu'elles ont été au départ assez possible. Et il faut sans doute sortir d'un certain nombre d'avis préconçus sur la façon dont doivent se faire les choses. Et à ce moment-là, il faut que le projet médical, si c'est un projet médical différent, s'adapte à l'architecture, ce qui ne doit pas forcément être le cas au départ. Mais je crois que les architectes, les psychiatres et les directeurs d'établissement s'entendent assez bien et que tout est possible, toujours. Enfin, c'est ce qu'il faut se dire, en tout cas.
Oui, alors, pour stimuler peut-être la prochaine question, donc un peu en contrepoint ou en complément, d'accord, de ce que disait le docteur Abrieux. Donc,
nous avons dans l'établissement également
donc une expérience, non pas en conception-réalisation, mais en partenariat public-privé, pour lequel, et on en a discuté lorsqu'on préparait un peu les interventions futures des uns et des autres, et en lien direct avec ce concept d'évolutivité, de locaux, d'utilisation multifonction, etc., pour rentabiliser au mieux. Je crois que ce n'est pas un mot tabou de dire cela. Je suis d'accord avec ce que tu disais. Hein. Donc, on a quelques soucis, parce qu'on se rend compte que plus que un projet géré en loi MOP classique, plus qu'un projet géré en conception-réalisation, donc évoqué tout à l'heure, je parle surtout en contrôle, hein, Gilles, en PPP, donc on est encore beaucoup plus garrotté dans la mesure où, donc on part, pour notre part, on est parti pour le minimum syndical requis, donc qui est de 18 ans, et on se rend compte, compte tenu du projet donc, qui a été aussi exposé en image tout à l'heure par M. Loda, qu'on aura une configuration qui sera bouleversée sur le site historique de Brumath. Donc on va libérer beaucoup de locaux, beaucoup d'hectares, parce qu'on a plusieurs, des hectares. Et on essaie d'optimiser donc la réutilisation de l'un des deux bâtiments qui va être libéré par l'un des secteurs qui partira à Strasbourg. Et donc là, on est obligé forcément de passer par les fourches codines de l'amphithéâtre. Parce qu'on met à disposition le terrain. C'est lui qui est le propriétaire pendant une durée donc prédéfinie. Mais donc c'est un souci dès lors qu'on veut s'adapter au courant de la vie du bâtiment. Donc tout ceci après 2 ans et demi maintenant de vie du bâtiment construit en PPP. Alors c'est un sujet très très difficile. Alors ce que le docteur Thévenot a très bien précisé tout à l'heure, et le docteur Abrieux aussi. Donc il est important qu'il y ait une vision, une conception. On a eu l'occasion de le vérifier. On a visité plusieurs sites également. S'il y a une vision relativement précise des choses, avec un projet médical et des gens qui s'investissent pleinement et qui se projettent pleinement dans un fonctionnement futur, ben on se rend compte que le résultat traduit par un architecte est souvent... si c'est un bon architecte, c'est encore mieux. Bien entendu, M. Loda. Mais donc, on voit qu'il y a un résultat à la clé. Mais bon, si on est dans une image floue du projet, je pense que donc, le résultat risque d'être flou aussi à la sortie. Voilà ce que je voulais dire de façon globale. Mais cette notion d'évolutibilité, elle est très importante. Je pensais que vous alliez être un peu plus technique encore. Aussi en fonction de la forme des bâtiments. Si vous avez une forme de bâtiment en peigne, alors bon, je ne vais pas faire d'exercice illégal de l'architecture, c'est sûr que c'est beaucoup plus figeant, beaucoup plus bloquant que si vous avez donc un fonctionnement tel que vous l'aviez décrit. Donc, donc ça, c'est aussi un élément important.
Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Juan, je suis psychiatre de formation et en même temps je fais partie d'une équipe de direction dans un contexte moi, de projet de reconstruction. Alors, quelques petites remarques pour aller à la Verrière, l'Institut Marcel Rivière, MGUN.
Merci.
Dans les Yvelines. Quelques petites remarques pour aboutir à ma question et plutôt à dans une question un peu ouverte, plus dirigée vers les psychiatres et aussi vers les directeurs d'établissement, parce que je crois que Monsieur Loda a bien dit la nécessité d'un travail en commun, médico-soignant, architecte et direction. Alors, une des premières diaporamas, on parlait de Bonafé qui questionnait la possibilité de rationaliser, ou en tout cas de rationalité ou de rationalisation en psychiatrie. Je crois que moi, ce que je perçois, c'est quand même que on doit rationaliser notre idéal de soins. Ça, c'est évident. Par contre, il ne faut pas que la rationalisation devienne... Donc, on idéalise la rationalisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment débattre. Voilà. Ne pas subir les projets architecturaux simplement par la lorgnette financière, même si on doit passer par ces fourches codines-là. Donc ça, c'était un petit peu des remarques. Je trouve aussi dans l'intervention sur l'histoire, je dirais, de l'architecture psychiatrique, j'ai pas pu m'empêcher quand même, malgré tout, de penser à la problématique de la concentration et des camps concentrationnaires. Qu'on aille de l'asile, qu'on aille vers même le village, l'outil peut paraître beau, ça reste un outil. Les portes qui devaient être ouvertes peuvent être au final fermées. Des établissements n'ont plus de murs, mais au final les unités sont fermées. Bon, ça on le vit dans le quotidien et je crois que c'est vraiment à prendre en compte. Et pour arriver à ma question et en même temps la remarque, je crois vraiment que l'histoire de former des psychiatres ou des soignants à une lecture des plans est indispensable. L'implication des soignants, des médico-soignants est indispensable parce que sinon après on voit bien que l'architecture ne correspond pas. Je pense que les projets sont souvent on se décharge vers les programmistes qui vont ensuite faire quelque chose qui ne va pas répondre à nos attentes. Les directions portent de lourdes responsabilités sur le plan financier, mais les directeurs sont quand même des gens intelligents et savent très bien que, au-delà de la problématique financière, le projet médical va être ce qui va derrière l'outil financier va faire que leur établissement va avoir une portée ou pas et survivre aux différentes difficultés et avoir une raison sur le territoire. Ma question, elle est assez simple. C'est quand même dans ce qu'on a pu entendre, c'est qu'avant, on avait quand même beaucoup de psychiatres qui se sont inquiétés de l'architecture. On a des architectes qui s'inquiètent de l'architecture en psychiatrie. On a des directeurs qui s'inquiètent des projets architecturaux pour différentes raisons. On a quand même peu de psychiatres qui écrivent dans le domaine. Et on est quand même bien démunis. Ne devrions pas, nous mobiliser un petit peu sans nous retrouver dans des positions un peu trop idéalisées de l'architecture que l'on souhaiterait. Voilà.
Merci pour votre question. Donc, elle s'adresse plus particulièrement aux psychiatres. Qui s'y colle à la réponse, s'il vous plaît ?
Les deux. On va sûrement y répondre tous les deux. Enfin, je dirais que, oui, une formation à l'architecture, je pense que ça peut être que positif, parce que de toute manière, tout ce qui ouvre l'esprit et qui remet la pensée en marche pour un psychiatre, c'est très bon. Pour un soignant en psychiatrie, c'est très bon. Donc, je serais tout à fait partie prenante, parce que je n'ai pas la capacité, mais en tous les cas, je m'inscrirai volontiers à cette formation. Écrire sur l'architecture, oui, ça serait vraiment très, très intéressant, parce que, je veux dire, il y a l'intention thérapeutique qui passe au travers. Donc, si on écrit sur l'architecture, je veux dire, quand on voit les présentations de ce matin, c'est passionnant, enfin, sur l'histoire, enfin, c'est vraiment la culture générale, et celle-ci en particulier, là, sur l'histoire de la psychiatrie, sur l'architecture, c'est passionnant. Mais comme je suis des fois, là, j'ai une phase un peu pessimiste en ce moment, je veux dire, je pense aussi que on a de moins en moins de temps d'écrire sur la psychiatrie. Je pense que pour travailler sur la psychiatrie et l'architecture, je pense que s'il y avait une urgence, je pense que l'architecture, c'est très important, mais en même temps, c'est important qu'il y ait des conceptions de psychiatrie qui soient énoncées clairement, conflictualisées, parce que la psychiatrie n'existe pas, il y a des psychiatries. C'est pour ça que là, je veux dire, quand on fait sur... déjà, on a vu que selon les villes, selon les pays, ce n'était pas les mêmes conceptions. Mais quand on est dans le même pays, ce n'est pas les mêmes conceptions. Et quand des fois, dans le même hôpital, c'est peut-être les mêmes conceptions, je pense que les architectes et les directeurs doivent s'arracher les cheveux quand il y aura des psychiatres. Effectivement, s'il y en a quatre, il n'y en a pas un qui pense pareil. Enfin, même si après, dans la pratique, ça se rejoint quand même. Hein. Mais je pense qu'il faudrait qu'on écrive sur la psychiatrie et qu'on écrive sur l'architecture, bien sûr.
Oui, et si je peux me permettre d'apporter quelque chose, je pense qu'on est passé au 21e siècle, alors que dans les siècles précédents, il y avait toujours des autorités individuelles qui expliquaient la meilleure solution d'arriver dans un temps d'intelligence partagée. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord pour des écrits, mais des écrits sous forme des écrits communs, hein, et qui puissent faire tricoter un peu les points de vue et afin qu'on puisse avoir des traductions concrètes, hein, dans les constructions futures de quelque chose qui soit tout à fait contemporain.
Donc je pense qu'on ne peut qu'y souscrire et donc y associer aussi notamment, je ne sais pas s'il faut dire, la corporation directeur des soins, hein, bourgeois. Hein, donc je pense que c'est très important, au titre des soignants, au sens large du terme, bien entendu.
Que ce soit pour les écrits, que ce soit pour la conception, c'est vrai qu'on l'a vu à plusieurs reprises et dans le travail qui nous a animé avec le docteur Thévenon et le docteur Lalo sur les UTP, c'est effectivement d'associer d'emblée, comme je le disais en conclusion de mon propos, tous les professionnels et toutes les compétences en présence pour pouvoir avoir le maximum d'idées, partager un maximum donc aussi, je dirais, de courants de pensée et pouvoir arriver à une solution qui nous paraît la plus pertinente. Autant T où effectivement on va se décider, considérant qu'on sera sans doute amené, ou en tout cas comme on le fait aujourd'hui, nos successeurs seront sans doute amenés à apporter, je dirais, des améliorations, encore une fois, par rapport à ce que l'on pense aujourd'hui et par rapport à l'évolution de notre société. Donc je crois que c'est effectivement toujours se situer dans cette démarche d'amélioration continue et avoir des architectures qui nous permettent, et des matériaux aussi qui nous permettent de faire évoluer en prenant en compte aussi ce que vous évoquiez, c'est-à-dire les contraintes budgétaires qui sont les nôtres, mais sans, encore une fois, se priver de la créativité qui peut être la nôtre au service donc des besoins des patients. Donc je crois que c'est vraiment vers ce but-là qu'il faut se centrer.
Merci. Donc avant de passer la parole à M. Loda. Monsieur le Trésorier, on dispose de combien de temps là pour des problèmes de logistique?
On est déjà en retard.
Oui, ça on savait. Hein. Merci. Merci de nous le rappeler. Pardon?
5 minutes.
5 minutes, ok. Merci.
Bon, juste, alors, pour l'aspect bibliographie, c'est vrai qu'il y a eu très peu d'écrits depuis Sivallon. Je crois que c'est les derniers moments où a été écrit quelque chose sur l'architecture par des psychiatres. Après, pour le reste, on est tous là, on est tous plein de bonnes intentions et on a tous envie de travailler ensemble, c'est parfait. Néanmoins, l'expérience que j'ai pour participer à de nombreux concours, pas assez nombreux à mon goût, mais montre que parfois, on ne voit strictement personne. On reçoit un programme qui a été fait par un programmiste qui n'avait fait que des lycées dans sa vie antérieure ou autre chose. Si, si, ça arrive. Et on voit bien que le contenu de certains programmes est complètement déconnecté à la fois du projet médical et des notions qu'on a évoquées ce matin. Pas systématiquement, mais ça arrive. Et il faut travailler là-dessus. Et les directeurs d'établissement qui sont à l'origine des projets ou en tout cas dans la mise en place des équipes destinées à donner les outils aux architectes pour travailler doivent être vigilants de faire appel à des gens qui connaissent la psychiatrie. Parce qu'on peut échanger, mais si on ne se comprend pas, on arrive mal à décrire des objectifs que nous, ensuite, on peut utiliser. Et donc, il faut également... alors, je sais que le code, la loi MOP, le code des marchés publics interdit les échanges en dehors d'une réunion, mais parfois, on n'a même pas cette réunion d'échange avec les équipes sur les lieux. Les équipes sont aussi, parfois, absentes de l'analyse des projets. Et ce qui fait qu'à la fin, sont construits des bâtiments qui sortent plus ou moins de nulle part et que les gens qui ont à travailler dedans doivent s'approprier en le faisant avec plus ou moins de réussite et surtout beaucoup de contraintes. Et même si à la limite ça peut marcher, le fait d'avoir été parachuté là du jour au lendemain rend les choses un petit peu plus difficiles. Donc c'est vraiment dès le départ du processus de construction d'un projet que ces échanges doivent avoir lieu avec les architectes mais aussi avec les programmistes, entre les médecins, parce que nous arrivait de faire un projet pour deux médecins qui ne pouvaient pas se parler. Et c'était un seul projet. Alors c'est un peu compliqué. Donc il y a plein d'anecdotes, plein de situations. Mais bon, à chacun à son échelle, on doit effectivement travailler sur cet échange. Après, vous disiez chacun doit rester à sa place. Je suis pas complètement d'accord. Je pense que c'est bien quand on prend la place des autres, même si on dit des bêtises. On ouvre parfois la lecture du même problème avec un autre angle et ça peut toujours servir à quelque chose.
Oui, je pense qu'on pense à la même chose.
Oui,
mais
je pense
on
aussi.
Peut le dire différemment.
Si je peux ajouter une petite chose, j'ai eu la chance, en effet, de faire un travail comme ça en partageant avec l'architecte la construction d'un espace vide, c'est-à-dire l'ancien centre de santé mentale qui était né pour d'autres fonctions, était complètement vidé. Et donc, on avait presque un cube vide et on a construit ensemble. Mais c'est rare, hein, c'est rare parce que ce que j'ai vu, ce qui se passe le plus souvent, c'est de devoir réadapter des locaux, des espaces, des immeubles qui déjà existants pour des fonctions différentes. Donc ça, c'est vraiment la contrainte à laquelle l'architecte, parfois, est appelé à trouver des solutions qui sont difficiles à trouver. Mais par contre, quand on a eu, comme moi, la chance de construire avec l'équipe, parce que moi, j'ai ramené toute l'équipe, on a fait 10 ans de réunions avec des grands... j'ai appris à lire les projets. Hein. Et on a déplacé les chambres, les toilettes, et au rez-de-chaussée, à l'étage, comment... Ça prend du temps, mais ouais, enfin...
Faut pas exagérer non plus. Hein. Hein
mais à la fin, le résultat, c'est un résultat partagé.
Merci. Merci, docteur. Alors, il peut y avoir deux questions, mais très courtes, appelant une réponse courte, ou alors une question moyennement longue, nécessitant une réponse moyennement longue. Alors, qui a encore une question ? Ah ben écoutez, je crois que tout le monde a faim. Donc merci pour votre patience, pour votre attention et merci encore aux intervenants. Et bon appétit.